Bonjour à tous. Je vais essayer de faire attention avec ce micro qui a l'air de cracher plus fort que moi. Alors merci d'être ici présent pour le vernissage de Dominique Martin. Je demanderai à tout le monde de faire attention à éteindre le niveau ou carrément à rendre silencieux l'ornatel afin d'éviter tout concert improvisé. L'Arabie, une péninsule qui suscite autant d'attrait que de crainte, une sorte de forteresse pleine de fantasmes. Et pour qui s'y aventure, eh bien c'est une aventure autant des sens que humaine. Et à l'instar justement de Dominique Martin et de son livre Empreinte saoudienne, vous avez quelques mots à dire au public ici présent que vous connaissez très bien.
Oui, parfaitement. Je souhaiterais adresser quelques mots au public. D'abord, j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue. Vous remercier d'être venus si nombreux, petit coup d'émotion. Et puis j'aimerais également remercier Yann et Maud qui nous accueillent ce soir à la librairie du Rameau d'Or, une librairie comme on les aime, il n'y a pas d'autre mot. Et puis j'ai ce soir aussi une pensée très émue pour Vladimir Dmitrievitch que j'ai vu pour la dernière fois ici dans sa librairie peu avant son accident. Et c'était un samedi, un jour de marché aux puces dont il raffolait. Il était basket aux pieds, il avait surgi de sa forêt de livres dans laquelle il tentait de mettre un semblant d'ordre. Il avait le cheveu un peu hirsute et l'œil enflammé par sa passion de la littérature. Et le sourire qu'il m'a adressé ce jour-là en prenant congé de moi, un sourire tellement, d'une empathie tellement rare, m'éclaire encore aujourd'hui. Et j'aimerais aussi remercier très vivement toute l'équipe de l'Âge d'Homme qui a fait un magnifique travail, dont deux représentants me font le grand plaisir d'être parmi nous ce soir. Il y a Christine Deona Bétrizet et Patrick Vallon. Et j'aimerais adresser... dire tout particulièrement à Patrick Vallon combien je lui suis reconnaissante de la bienveillance et de l'enthousiasme qu'il a mis dans cette réalisation et également saupoudré d'un humour qui n'appartient qu'à lui et qui a permis de rendre plus pétillant certains moments plus fastidieux de la réalisation du livre. Je pense aux épreuves notamment qui portent bien leur nom. Et j'aimerais également remercier, enfin je vais pas, la liste sera non exhaustive bien sûr, j'aimerais remercier mon mari que j'ai emmené dans les méandres de l'Arabie Saoudite une seconde fois. Et bon, j'aurais jamais pu y aller sans lui, donc voilà, il était absolument indispensable, j'aurais pas pu entrer dans ce pays sans lui. Et puis, j'aimerais tous vous remercier, tous et toutes, pour tous les encouragements que vous m'avez prodigués, et puis tous les yeux qui sont derrière les caméras, Bernard qui mitraille, et Louis qui est l'œil de la soirée. Et voilà, mais c'est tout. Je voulais juste adresser mes remerciements. Et puis je voulais encore, avec votre amicale empreinte, souhaiter bon vent à Empreinte saoudienne et à tous et à toutes une très bonne soirée.
Dominique Martin, même sans avoir lu aucun passage, j'ai déjà un petit peu l'idée du style du livre, hein, tout ce langage aussi riche que nous allons voir au fur et à mesure de cette découverte. Ça va aller derrière, c'est tout bon? Magnifique.
Ah mais il y a toujours des péripéties, des événements. Hein.
Voilà, tant qu'il n'y a pas de pan royal caché là derrière, tout ira bien. Dominique Martin, vous parlez justement de votre mari. Alors quelles ont été les circonstances de cette première découverte de cette culture aux antipodes de la vôtre, celle saoudienne? Les circonstances de type professionnel d'abord, guidées par des propositions à votre mari et surtout... Cela aurait dû être le Liban, c'est ça?
Effectivement, oui. Donc moi, j'avais terminé mes études de lettres et mon mari était malheureusement au chômage parce qu'il était lié à un projet qui est tombé à cause d'un référendum, un projet d'un centre sportif. Donc, pour continuer à travailler dans son métier, il a choisi de partir d'abord au Liban. On a choisi de partir au Liban et puis en fait, construire une station de ski. Et finalement, la guerre a éclaté. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même partir, parce que c'était l'occasion jamais. On avait envie de faire ce type d'expérience. Et par une petite annonce de la Tribune de Genève, mon mari a répondu à une annonce qui demandait un architecte pour l'Arabie Saoudite. Et le travail en question était de faire des expositions ambulantes avec les différentes pierres naturelles, le marbre, l'albâtre, pour pouvoir l'appliquer dans la décoration locale. Bon, ça c'était la première chose. Et puis après, il y a eu toutes sortes de choses en cours de route qui ont fait que mon mari a été happé par un fameux personnage qui lui a demandé de devenir son architecte exclusif. Donc là, les choses se sont bien modifiées à partir de ce moment-là. Mais je pense que je vais vous laisser passer à la question suivante.
Nous sommes trop longs, les détails sont dans le livre. Nous reparlons de ce personnage qui, en plus, est un personnage avec qui vous avez noué une relation.
Absolument.
Revenons un petit peu sur ce début. Donc vous arrivez là-bas, en Arabie Saoudite. Déjà, vous n'arrivez pas à partir en même temps que votre mari. Ça commence déjà à être difficile pour vous en tant que femme.
Déjà prémonitoire, oui.
Prémonitoire. Et finalement, quelles sont vos activités et comment se déroule un peu votre quotidien là-bas, puisque vous êtes quand même affairé, vous allez quand même bien écrire un essai d'art islamique, vous avez quand même travaillé finalement.
J'ai travaillé. Disons que j'ai été au départ quand même, j'ai été engagée par le bureau qui a engagé mon mari, qui a dit bon écoutez, on peut vous engager à mi-temps. Normalement les femmes n'avaient pas le droit de travailler, mais bon il y avait quelques femmes tolérées dans le travail, notamment les occidentales. Et j'ai été engagée pour faire plein de choses, des traductions, du secrétariat, de la comptabilité. Et il s'est trouvé que le gouvernement saoudien a demandé au bureau, et c'est moi qui l'ai rédigé, un essai sur l'art islamique. Alors ça m'a passionnée. On a beaucoup voyagé avec mon mari. On est allé en Égypte, au Yémen. Enfin, on a eu cette chance aussi en Afghanistan. Et puis, j'ai pu écrire cet essai sur l'art islamique. Mais disons que ce travail au bureau à mi-temps, était ma bouffée d'oxygène, parce qu'autrement, je me suis retrouvée vraiment dans des conditions enfermées dans un appartement assez sordide, je dois le dire, dans le quartier des Carrossiers. Il n'y avait personne, aucun occidental, aucune occidentale. On jetait toutes les ordures par la fenêtre, mais moi, j'étais là toute la journée. Et puis finalement, bon, un chauffeur venait de temps en temps me chercher pour aller au bureau. Les débuts ont été très, très difficiles. Et puis après, j'ai décidé, plutôt que de me morfondre, j'ai dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que je fasse un tremplin de cette solitude, de cette condition, cette liberté quasi inexistante. Il faut que j'en fasse quelque chose. Donc après, j'ai aussi également travaillé à la radio. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et j'ai fait finalement beaucoup plus de choses en 3 ans en Arabie Saoudite que je n'en ai fait ici, je dirais pas en 10, mais peut-être en 5.
Alors est-ce que c'est justement cette solitude et un peu le jeu des contraintes qui vous a poussé à développer cette envie d'écrire, de décrire ce que vous ressentiez? Est-ce que c'est aussi la notion du temps qui était différente quand on est dans une solitude, on a le temps peut-être de réfléchir sur des choses? Comment s'est passé ce déclic de l'écriture? À quel moment vous vous êtes dit, mon histoire, ces histoires qui m'entourent, elles pourraient intéresser quelqu'un d'autre après?
Oui, c'est-à-dire que j'étais tellement, je me sentais dans une telle réclusion. Mon mari était tout le temps loin, donc très dépendante forcément de mon mari. Je me suis retrouvée seule quand même entre 4 murs. Lui partait très souvent chez ce fameux ministre dont on aura l'occasion de parler. Et moi, je me retrouvais toute seule. Et c'est vrai que, en fait, j'ai aussi aimé ce pays parce qu'il m'a obligée à naître à moi-même. En écrivant, alors il y a eu l'essai sur l'art islamique, il y a eu la radio, Radio Jeddah, avec toute la censure qu'on peut imaginer. Et je dirais que oui, là j'ai été forcée, j'ai dû naître, j'ai dû rassembler toutes mes forces et m'exprimer. C'était incroyable d'arriver dans ce pays où la liberté d'expression n'existe pas. Moi j'étais une femme qui était peut-être à l'époque pas très très affirmée. Et tout d'un coup, ça a été une violente poussée de sève, et je me suis mise à écrire. Et ça m'a libérée. Et c'est pour ça que je dis j'aime ce pays, parce que enfin, c'est un peu, quand on dit qu'on aime l'Arabie Saoudite, ça paraît un peu bizarre, parce qu'il s'y passe aussi des choses terribles, mais parce que ce pays m'a poussée à naître, en fait.
Empreinte saoudienne, donc paru aux éditions de l'Âge d'Homme, contient deux récits. Le premier de cette première aventure de 1975 à 78,
c'est ça, oui.
Et puis tout récemment en 2011. Alors on va plutôt parler de la première partie. Dites-moi un petit peu comment c'était les années 70, puisque vous avez en début des années 70, en plein boom aussi du pétrole.
Absolument, oui.
Comment est-ce que vous avez vu un petit peu cette activité au niveau du travail et votre place en tant que femme là-bas occidentale?
Bon, d'abord au niveau, je dirais, parce qu'il y avait la vie quotidienne qui était très très dure. Hein, je veux dire, il y a tout d'un coup eu cet essor économique grâce au pétrole. Et en fait, ces gens n'étaient pas du tout habitués. C'était encore des bédouins, donc tout était très très désorganisé. C'était vraiment la pagaille totale. Hein. Je vous parle pas, les pannes d'électricité, c'était rien, les pannes d'eau, etc. Enfin, sans arrêt, on était confrontés au quotidien, il fallait résoudre ces problèmes, il fallait se débrouiller avec ça. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, condition de la femme, bien sûr, donc la femme, à l'époque, d'abord, condition vestimentaire, je n'étais pas du tout obligée à l'époque, et ça a changé, de revêtir le voile et la baïa, ce que j'ai dû faire cette fois quand j'y suis retournée. Je devais m'habiller décemment, bien sûr, mais je n'étais pas obligée de me conformer à ce code vestimentaire. D'autre part, j'étais extrêmement dépendante de mon mari. Quand on allait dans des soirées saoudiennes, il y avait un côté pour les hommes, un côté pour les femmes, une soirée pour les hommes, une soirée pour les femmes. Je suis même allée à un mariage et j'ai eu la chance d'assister à un mariage où il y avait 2000 femmes, c'est quelque chose d'incroyable, mais il y avait une soirée pour les femmes. Et puis, je crois, le lendemain ou deux jours après, mon mari a assisté à une soirée pour les hommes, beaucoup plus simple. Ils étaient, je crois, à 300. Enfin, voilà, pour vous dire que, bon, j'étais en tant que femme, j'étais obligée d'épouser la condition des femmes saoudiennes, donc privée de liberté, dans une grande solitude, j'y reviens, toujours cette solitude. Et puis en même temps, j'ai découvert des choses extraordinaires. J'ai découvert un manège, j'ai appris à monter à cheval sur des étalons. Alors je peux vous dire que ce n'était pas une mince affaire. Hein. Il y en a même un qui s'est emballé une fois. Mais tout ça pour dire que ces moments-là m'ont révélé un petit peu une petite parcelle de l'Arabie heureuse. Donc il y a eu des tas de belles choses aussi. Hein. Mais je dirais que ce qui était terrible, c'était la pagaille quotidienne. Il fallait gérer ça et ce n'était pas simple.
Alors déjà, en vous entendant, on remarque un petit peu comme ce caractère, cette soif de découverte. Et justement, ces traits de personnalité, eh bien le cheikh Amami, ce cheikh dont nous parlions petit peu par étapes en filigrane.
Que j'appelle Amami, oui.
Alors voilà, ministre alors du pétrole. Oui. Vous nouez une relation assez spéciale avec lui, c'est assez inattendu en tant que femme en
Arabie
Saoudite.
Totalement.
Qu'est-ce qui lui plaît chez vous, ou dans votre personnalité, ou dans vos conversations à cette époque-là?
Je dirais d'abord, c'est peut-être notre première rencontre qui lui a plu, parce que c'est peut-être ma spontanéité. Je pense que tous les gens lui faisaient des courbettes, et puis il s'est trouvé, enfin je ne sais pas si je peux raconter, si j'ai le temps de raconter cette première rencontre. Donc mon mari partait très souvent sur des chantiers à 200 km, là notamment à Taïf pour construire le palais de ce ministre Amami. Et il me disait le matin, écoute, je reviens, je rentre vers 8 heures le soir. Okay. Et la route était extrêmement dangereuse. Disons que c'est un des... les routes d'Arabie Saoudite sont parmi les routes les plus meurtrières du monde. Hein. Et on avait tous peur, d'autant plus qu'on se faisait, quand on avait un accident, on refusait de vous soigner à l'hôpital. On n'avait pas le droit de vous soigner, il fallait vous mettre d'abord en prison, ensuite établir le constat de police, et puis après, éventuellement, si vous étiez toujours vivant, on vous emmenait à l'hôpital. Non, mais je veux dire, j'exagère un peu, je caricature, je suis d'accord, mais c'était ça. On était terrifiés. Donc, ne voyant pas mon mari revenir 8h, 9h, 10h, 11h, minuit, je commence à paniquer, et nous n'avions pas le téléphone. Donc, je me dis, il faut que j'aille au bureau pour pouvoir téléphoner. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande à notre boy, j'aime pas ce terme, mais on les appelait comme ça, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Mais enfin, je demande au boy d'aller sonner dans une maison voisine. Et il y avait encore une maison, il y avait de la lumière. Et un monsieur qui est d'accord de me conduire au bureau, je vais téléphoner. Et j'essaye d'atteindre depuis le bureau le guest house de ce cheikh Amami, parce que je voulais pas, évidemment, je pouvais pas l'atteindre directement. Et c'était toujours très, très compliqué avec les téléphonistes. Alors d'abord, nous, on parlait quelques mots d'arabe, eux, vaguement quelques mots d'anglais, mais on n'arrivait jamais à se comprendre. Il y avait une énorme friture sur la ligne. C'était très, très compliqué. Et alors, je commence à parler, à demander gentiment, et encore, et puis après, il me passe un autre téléphoniste, etc. Et je commence à paniquer, à m'énerver, et je hurle à mamie, et j'ai vraiment très, très fâchée.
Vous étiez agacée.
Oui, même plus que ça, je dirais. Et puis, une voix charmante me répond, mais en anglais, mais à qui voulez-vous parler ? Bon, je dis, écoutez, s'il vous plaît, monsieur Martin. Et j'ai mon mari au bout du fil, puis je lui dis, oh, c'était lui ? Oui, me dit-il. Il paraît qu'il a fait comme ça quand il lui a passé le téléphone. Donc, je crois que ce premier contact lui a plu. Et puis, mon mari est revenu avec une énorme boîte de chocolat. Et depuis, j'ai été complètement intégrée à la famille, enfin, de ce ministre. J'ai rencontré ce ministre, bien sûr. Et on a eu, c'est vrai, une relation assez, assez particulière, très intéressante, parce qu'il se passionnait pour l'astrologie. Il se passionnait pour le pouvoir de la pensée, enfin tout l'ésotérisme, moi aussi d'ailleurs. Donc là, on a eu vraiment un terrain de discussion et d'entente assez, assez extraordinaire. Je ne sais pas, c'était comme ça et je pense que c'est ma spontanéité qui lui a plu.
Vous avez donc ouvert des portes aussi à votre mari sur place, avec votre spontanéité.
Oui, mais il les avait déjà ouvertes avant moi, je dirais. Moi, je me suis glissée après, mais ça n'a fait. C'est vrai qu'on a eu une relation magnifique, c'était une chance exceptionnelle. C'était quand même un des hommes les plus puissants du monde. Bon, il était très ouvert quand même à l'Occident. Hein. Il faut dire qu'il était très ouvert à l'Occident. Voilà, donc ça a été... Bon, il y a eu après aussi une rupture qui a été assez douloureuse.
Alors justement, de retour du premier séjour, vous publiez l'Arabie à double cœur. Alors, quelque chose qui colle assez bien, hein, puisque c'est peut-être l'histoire d'un amour blessé, puisque vous partez, ou plutôt on vous expulse de façon assez foudroyante.
Ah oui.
Sans trop d'explications.
Sans aucune explication, oui.
Et pourtant, vous retournez en Arabie Saoudite en 2011,
oui.
Lorsque la question de republier ce premier ouvrage se pose. Pourquoi cette nécessité peut-être de réconciliation de...
Exactement, oui, exactement. Bon, je dirais qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit « Mais tu devrais, le livre est épuisé, tu devrais le republier. » C'était un récit, on aimerait bien le lire ou le relire. Et puis je me suis dit, bon, j'ai pas tellement envie. Moi, quand une porte est fermée, elle est fermée. Mais en fait, elle n'était pas du tout fermée. Ça, je ne le savais pas encore. Et je me suis dit, bon, au fond, pourquoi pas ? Oui, je vais peut-être retourner en Arabie, mais il faut que j'aie un nouveau regard, que j'apporte quelque chose de nouveau. Donc je me suis dit, je vais retourner là-bas et puis je vais réécrire. Ben, j'ai réécrit un deuxième livre, finalement, à la suite du premier. Et attendez, là j'ai perdu le fil.
Vous avez besoin de reconstruire ce qui s'est déchiré
alors,
très rapidement.
C'est ça. Mais ça, j'en étais, disons, j'ai eu... Alors, il y avait une souffrance, parce que d'abord, on nous a renvoyés sans autre explication. Donc, bon, Ella Maillard m'avait dit, mais vous savez, il ne faut jamais vivre trop près des grands. Donc ça peut être une petite bribe d'explication. Mais il y avait une blessure et j'ai eu l'impression, après je me suis dit, bon, je vais oublier tout ça, il y avait une blessure et le cheikh lui-même a été en disgrâce peu après notre départ. Donc il y a aussi un petit semblant d'explication là. Et finalement, j'y suis retournée parce que je me suis rendu compte par la suite que je n'avais pas du tout fait le deuil de cette Arabie, en fait. Et que quelque part, il y avait un lien qui était, si je peux dire, toxique. Qu'il fallait que je coupe et ça a été l'occasion et j'avais besoin de fermer cette porte pour en ouvrir d'autres. J'avais besoin, et ça c'est un peu le fil rouge de tous mes livres, la transformation, j'avais besoin d'amener de la lumière sur ce côté sombre et ça a pu être le cas et c'était fantastique parce que nos amis nous ont magnifiquement reçus et ils ont en quelque sorte cautérisé une blessure. Et voilà, la porte avait été claquée brusquement, et là, j'ai pu la refermer en douceur, en fait.
Voilà, il faut lire ce deuxième récit, justement, pour comprendre un petit peu aussi qu'il y a eu beaucoup de péripéties avant de finalement repartir. Vous avez failli ne pas repartir, mais les circonstances se sont finalement présentées à vous.
Oui,
et au moment de
voilà. Vous parlez du visa.
Du visa, toujours
oui.
Le visa.
Toujours le visa, toujours le visa. Mon mari l'a obtenu immédiatement, je m'y étais prise deux mois à l'avance. Mais c'est moi qui suis allée voir l'agence, en fait, pour demander le visa. J'aurais jamais dû faire ça. C'est mon mari qui aurait dû y aller. Parce qu'évidemment, c'était déjà un préambule de l'Arabie. C'était déjà une antichambre, si on peut dire les choses comme ça. Donc, on m'avait dit, mais nous, on peut obtenir un visa 24 heures avant le départ. Puis je m'étais dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils me disent ça le premier jour où j'y vais ? C'est étonnant. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. quasiment 24 heures avant, j'ai obtenu mon visa. Et mon mari, j'ai dit à mon mari, bah, tu partiras sans moi. Moi, je resterai sous les palmiers à Dubaï. Et puis, tu iras interviewer des femmes. Tu me ramèneras des impressions. Tu me ramèneras. Voilà.
Mais pas de possibilité.
Mais non, 24 heures avant, je l'ai eu. Non, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de péripéties autour de ce visa.
Donc, empreinte saoudienne qui comprend juste ces deux récits, le premier dans les années 70 et le dernier en 2011. Ici, un passage pour que vous compreniez que l'écriture de Dominique Martin, elle se lit un peu comme on nous servirait un buffet d'images et de mots. Voici une description de Jeddah, très bref. Évidemment, pas de lumière ni de signalement. Le trou, énorme, une vraie caverne, tient presque toute la largeur de la rue. Partout, Jeddah n'est qu'une immense crevasse. On creuse, on bouche, on creuse à nouveau, et on rebouche parce qu'on a oublié le plus important et qu'il faut tout recommencer. Ville de porcs et de pustules, incurable. Ville qu'on éventre à coups de bistouris, de pelles mécaniques, comme pour y chercher un cœur, une âme, pour y déceler un battement. En vain. Le progrès de cette vaste entreprise de dépoétisation achève de vider Jeddah de ses dernières substances. Jamais je n'ai vu une ville changer de physionomie en si peu de temps. Il suffit d'ailleurs d'une nuit pour que la rue principale de Médine soit condamnée plusieurs semaines par le caprice d'un prince. Voilà Jeddah dans les années 70. Une autre petite scène avant de passer, bien entendu, à la lecture par Dominique Martin de son écrit. Un autre passage qui m'a semblé peut-être intéressant pour vous, puisque c'est la première invitation d'un local. Hein, c'est la première invitation d'un Saoudien.
Oui.
Et donc c'est intéressant de voir comment vous avez... je vais arriver page 56-57, l'invitation chez l'habitant. Pleine de curiosité et de méfiance toujours, hein, mais plus d'ouverture que de fermeture dans ces aventures.
Oui, hein. Oui, absolument. Et puis la chance qu'on a eue, c'était effectivement, on a vécu d'un côté, on a vécu la vie des expatriés, et d'un autre côté, on a eu la chance de fréquenter des Saoudiens, des familles, des gens aussi très haut placés. Donc c'était, en même temps, c'était extraordinaire, puis en même temps, on vivait une espèce de schizophrénie. C'était assez étrange.
J'ai le sentiment contradictoire d'une part de ne pas m'assimiler à ce groupe familial qui, malgré notre présence, ne semble guère nous prêter d'attention, ne modifie aucunement son comportement, ses habitudes pour nous, s'exprime presque exclusivement dans sa langue. D'autre part, je comprends qu'en ne nous considérant et en ne nous traitant pas comme les étrangers, ils nous intègrent au sein de leur famille, nous font partager leur vie quotidienne, se révèlent à nous sans phare, authentiques. À nous de nous adapter à leur hospitalité. À nous de ne pas refermer la porte qu'ils ont ouverte, par laquelle nous découvrons ce soir la véritable fortune du Saoudien, du riche comme du pauvre, ce capital de chair et de sang, la famille, la tribu, le clan. Une chaîne de sang. Une chaîne de mots, entraide, solidarité, fraternité. Des mots qu'en Occident on achète pour 1 ou 2 francs, des mots qu'on nous rabâche et qu'il faudrait racler, brosser, lessiver. Ici, ils ont poussé dans le désert, ont été précieusement irrigués, nourris de chair et de sang et non de palabres. À la salle à manger, le repas est servi. Sur une grande table, un buffet racontant toutes sortes de couleurs et d'odeurs appétissantes. Chacun prend une assiette, se sert et va manger où il le désire. On me fait signe de m'asseoir. Soudain, je réalise que je suis la seule femme à cette table masculine. Toutes les femmes se sont retirées au salon. Gênée, je m'échappe, saute du masculin au féminin. Je flotte maintenant dans une atmosphère ouatinée, comme la moquette sur laquelle je suis assise en tailleur, à côté de Latifa qui me sert une généreuse platée de pudding à l'eau de rose, saupoudrée de pistaches émiettées, en me disant que je suis comme sa sœur. La soirée s'achève. Belle page d'écriture sans rature ni bavure. Une petite tache toutefois. Cette forme noire, recroquevillée comme un animal sous la table de la salle à manger. Cette servante aperçue en partant dans sa niche, ils essayent de nous masquer. On retient un peu son souffle parce qu'on s'y attend pas, non. Parfois. C'est très imagé.
Oui, j'ai toujours l'impression de peindre avec des mots. Moi, je suis incapable de faire un dessin, même un dessin d'enfant. Un bonhomme, j'arrive pas. J'avais une mère qui était artiste, mais alors moi, j'ai rien hérité d'elle à ce niveau-là. Mais j'aime peindre avec les mots. Ouais, j'aime aussi les descriptions. Voilà, c'est un bonheur.
Beaucoup de psychologie et d'images aussi. Est-ce que vous notiez pendant votre séjour des fragments de pensée ou c'est tout de mémoire? Est-ce qu'il y a une part de fiction?
Alors, aucune part de fiction et même des choses que je n'ai pas relatées. Et je dirais que oui, alors pendant que j'étais là-bas, je tenais parfois un journal, j'écrivais même des choses terribles, je lisais après, je voyais révolte, prisonnier, j'en peux plus, etc. Je veux dire, il y avait des moments de crise, heureusement que la feuille était là pour me soulager un peu. Mais j'ai presque entièrement écrit le livre là-bas, en fait, hein, et ça m'a permis justement de... J'ai pu me tourner vers ma vie intérieure aussi, c'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on est tellement limité sur le plan extérieur, au niveau de la liberté, hein, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on essaye de se tourner vers l'intérieur. Et pour moi, ça a été aussi une véritable découverte de moi-même. Et alors, disons, pour revenir à ce livre, je l'ai écrit presque aux trois quarts là-bas à Jeddah, et en rentrant je l'ai terminé. C'était assez dur d'ailleurs de le terminer en rentrant, parce que j'étais constamment, à cause de ce livre, j'étais constamment ramenée en Arabie, alors que je faisais tout pour oublier, pour faire le deuil, et puis bah oui, je baignais dans l'Arabie constamment. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé au niveau du livre et de sa création.
Dominique Martin, je vous propose qu'on vous écoute avec les passages que vous avez choisis.
D'accord. Alors, je vais vous lire, c'est en fait mon arrivée à Jeddah, il y a 33 ans, il y a beaucoup plus finalement, hein, c'était il y a 30, ça doit faire 39 ans maintenant. J'arrive donc à l'aéroport de Jeddah. Mon mari m'a dit oui, on va te délivrer un visa, il n'y a pas de problème. Donc j'arrive à l'aéroport. Dans l'avion, on me dit vous n'avez pas de visa. Je dis non, il y a des hommes d'affaires qui me demandent mais c'est impossible. Enfin écoutez, je commençais à avoir une légère angoisse qui pointait. Et puis j'arrive là-bas et puis j'essaye de passer le contrôle des passeports et on me refoule. Et je suis là et pendant 2 heures, je me fais refouler. Je cherche vainement mon mari, je regarde si quelqu'un m'attend, personne. Donc je suis restée là pendant un bon moment. En fait, en réalité, enfin, après, on m'a délivré un visa d'urgence, qui se fait assez rarement. Mais heureusement, je ne le savais pas. Là, je vais vous raconter un petit peu une partie de mon arrivée. Donc, enfin, quelqu'un arrive. Madame Bertine, je m'appelle Abdallah. Votre mari vous attend dehors car il n'a pas le droit d'entrer. Venez avec moi. Il faut d'abord aller faire votre visa. Nous nous engouffrons dans un bureau où scie un néon fatigué. Sur la table, pêle-mêle, toutes sortes de tampons encreurs. Une main brune et ridée par le soleil s'en saisit et les applique mollement sur mon passeport. En sortant du bureau, je me heurte au passage à un marchand d'animaux en peluche. Sur son épaule, un long tube de plastique transparent retombant en traîne derrière lui et à l'intérieur duquel ours brun, lapin blanc, chiens et chats s'escaladent en une joyeuse pyramide. Regard de convoitise de quelques petits arabes, émerveillé de voir soudain surgir de cette foule chaotique et déconcertante leur petit monde familier et sécurisant. Cette foule se tresse de nœuds toujours plus serrés. Je me cramponne à Abdallah, qui, profitant de ma perplexité, me prend la main et m'entraîne là où affluent les valises. Une arrivée de valises ne ressemblant aucunement à celle des aéroports internationaux. Propulsés, catapultés, les bagages surgissent des coulisses, tournoient, virevoltent dans les airs, parmi les cris des porteurs, puis échouent lamentablement, s'écrasent sur le sol déjà jonché d'autres valises mutilées, de paquets, de cartons éventrés. Mon regard se porte sur une petite cage en déséquilibre sur une malle. Des perruches, comme empaillées, pétrifiées de peur, se serrent les unes contre les autres, leurs petites pattes crochues crispées sur le perchoir. Un porteur s'empare de la cage, et voilà les oiseaux projetés de droite à gauche, de gauche à droite, comme les billes bleues et jaunes d'un boulier. Une valise gît à mes pieds, vieille boîte de conserve éclatée au contenu insolite. Une robe du soir noire pailletée, une paire de gants de cuisine en caoutchouc rose, le tout surmonté d'un oignon. Les aspirations contradictoires de la femme, prosaïquement étalées au grand jour. De belles pommes, rouges et brillantes, dégringolent d'un cajot sous le regard navré de leur propriétaire qui se dépêche de les ramasser sous une pluie d'injures. Un garde hargneux aboie toute une journée d'énervement. Une énorme noire secoue frénétiquement sa poitrine en guise de protestation et tente d'arracher à une fin certaine une grande pièce de drap multicolore, ballot mal ficelé, d'où va s'échapper tout un univers. véritable foire d'empoigne qui se prolonge pendant près de 2 heures. Voilà, alors le deuxième passage que j'ai choisi de vous lire, c'est un passage qui concerne, nous avions un couple qui s'occupait de la maison, un couple de Somaliens, et j'ai gardé beaucoup, beaucoup d'affection, bien sûr, j'en ai plus jamais entendu parler, mais j'ai gardé beaucoup d'affection pour ce couple parce qu'ils ont été vraiment pour moi une présence, ils m'ont réchauffé le cœur, et ils ont été une enveloppe autour de ma solitude. Et j'aimerais lire ce petit passage aussi parce que je suis émue en pensant à eux ce soir. Alors, le passage commence, les parents de mon mari étaient venus nous rendre visite et là, ils venaient de repartir, donc je me retrouvais de nouveau assez seule. Malgré toutes les belles soirées saoudiennes, bon, bah, y avait le quotidien et puis il y avait la solitude.
C'était tous les soirs, hein, la fête. Hein.
Tous les soirs, jusqu'à 4-5 heures du matin et à 7h30, mon mari allait travailler. Les parents de Fabien partis, lui à Taïf, me revoilà seule. Heureusement, il y a toujours Mohamed et sa femme Amina. Le jour déclinant, je m'éveillerai de la sieste. Amina rosera le jardin. La regarder ainsi vaquer à ses occupations, répéter les mêmes gestes, avec ce pouvoir de les renouveler sans même s'en douter, sera pour moi comme une parole apaisante, une main sur mes tempes. Et bientôt, ce moment de grâce, l'approche de la nuit, cette compresse sur la blessure brûlante du jour. La nuit va naître dans le jardin, où l'eau est encore en suspens dans la terre, comme une parole inarticulée, un espoir. Puis elle s'imprégnera du parfum des grains de café qu'Amina fait rôtir tous les soirs. Elle se précisera au bruit de casseroles, de vaisselle dans la cour. Mohamed et sa femme sauront lui donner un air de fête, vêtus de couleurs chatoyantes, de colliers, recevant leurs amis, leurs nattes installées sous la tonnelle feuillue, le transistor enclenché. J'aime l'atmosphère familiale que ce couple crée autour de la maison. Les visites des amis d'Amina, voilées, couvertes de pacotille. Cette enveloppe autour de ma solitude qui la rend plus douillette. Alors, attendez, les petits papiers jaunes. Alors, je vais vous parler de l'abaya. Parce que j'ai dû donc cette fois revêtir le voile et l'abaya. Et évidemment, pour un temps limité, ça a été une expérience assez extraordinaire pour moi. Et il y a plusieurs passages qui concernent cet abaya. Mais là, c'est la première fois que je l'endosse, si je puis dire. Voilà, et je vais vous livrer un petit peu mes émotions. Que l'abaya me semble lourde. Avant d'endosser ce nouveau vêtement, je dois me délester de tous les oripeaux de la pensée négative. Me dépouiller de tous mes préjugés, de l'idée que ce vêtement va m'entraver, porter atteinte à ma liberté. Je dois me débarrasser de tous les résidus de la révolte que j'importe d'Occident. Ainsi, je pourrais me concentrer sur mes sensations et tenter d'être objective. Mon abaya passé sur mon jeans et mon t-shirt, je m'observe longuement dans le miroir. Moment d'excitation enfantine, tempéré d'un respect pour ces femmes dont j'épouse la condition pour un temps limité. Je me sens toute bizarre, à la fois soumise et révoltée, prise au piège d'un mimétisme inquiétant, l'impression que quelque chose se métamorphose peu à peu en moi. Est-ce dû à cette qualité d'empathie très développée que les autres me reconnaissent, mais qui m'amène aussi parfois à me perdre dangereusement en eux? Le voile et l'abaya me vont plutôt bien, presque trop bien. Fascinée par le fait d'être soudain si différente, je reste scotchée au miroir, comme si j'avais brusquement troqué ma vie contre celle d'une autre, comme si tout ce qui constituait la mienne jusqu'ici venait subitement de disparaître. « Tu es prête, on y va ?» s'impatiente Fabien. « Encore quelques instants, s'il te plaît. » Comment lui expliquer, à lui qui décrit cette mascarade, qu'en revêtant cet abaya, j'ai la sensation d'accomplir un étrange rituel, que ce vêtement est devenu un moule, le creuset d'une mystérieuse alchimie, qu'une part inconnue de moi est en train d'émerger. Voilà, alors la dernière est consacrée à la place du châtiment. La place du châtiment, c'est la place où ont lieu les exécutions capitales le vendredi. parce que ben, on sait là-bas, enfin on le sait peut-être pas, tout le monde le sait pas, ben, on décapite toujours les gens, on coupe les mains bien sûr, et puis on flagelle aussi, mais on décapite tous les vendredis. Et la place qui se trouve devant une mosquée s'appelle la place du châtiment. Alors je vais vous lire ma première rencontre avec la place du châtiment. Donc on a un ami qui nous dépose au pied d'un immeuble. Nous allons trouver d'autres amis qui ont un empire là-bas, et donc un immense building. Et je vais me retrouver dans ce building. Paul nous dépose non loin des souks, au pied d'un immeuble où nous avons rendez-vous pour le déjeuner avec Khalid, Zara et leur famille. Depuis l'impressionnant building qui abrite la compagnie de nos amis, j'ai une vue plongeante sur une grande mosquée blanche et son parvis. C'est la place du châtiment, la place où le vendredi ont lieu les exécutions capitales. Lorsque nous vivions à Jeddah, j'entendais souvent parler de cette décapitation, un spectacle pour beaucoup. Quelques expatriés assoiffés de sensations fortes s'y précipitèrent aussi. À leur retour, ils nous balançaient l'insoutenable qu'ils ne pouvaient plus contenir. Je n'ai jamais assisté à une exécution ni eu la curiosité d'aller voir l'endroit où elle se déroulait. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, me voilà confrontée à l'intolérable d'une manière inattendue. Tandis que mon mari visite les bureaux du staff management de la compagnie, je reste scotchée à la vitre, hypnotisée, telle une enfant devant un monstre camouflé dans un habit de fée. Cette mosquée et ses abords me fascinent. Je cherche un indice, une trace, mais tout semble aseptisé, propre en ordre. La blancheur de l'édifice gicle sur le bleu vif du ciel, éclabousse le regard. Pureté maculée de barbarie. Ignorante, j'aurais cédé à un élan spirituel, et à cette pensée je me sens défaillir. L'horreur que dissimule tant de blancheur induit en moi une tension extrême que personne alentour ne soupçonne. Un abîme s'ouvre sous mes pieds, tandis qu'autour de moi, nos amis virevoltent, insouciants, un drink à la main. Khalid s'approche de moi. A-t-il perçu mon trouble ? Je l'interroge d'une voix un peu tremblante. Y a-t-il encore beaucoup d'exécutions ? Très peu, selon lui. 2 par année environ. Les chiffres d'Amnesty International apparaissent, quant à eux, moins réjouissants. On va terminer sur cette note un petit peu sombre, on va dire, mais bon, c'est aussi l'Arabie.
Dominique Martin, alors vous avez évoqué un peu cette sensualité que vous redécouvrez à travers l'expérience du voile,
oui.
Bon, de la baïa, du voile, etc., mm-hmm. intégral. J'ai une question, quand vous étiez jeune, vous étiez déjà passionné par Laurence d'Arabie. Est-ce que l'Arabie, finalement, c'est vraiment un hasard ?
Certainement pas. D'abord, je ne crois pas au hasard. Je ne sais plus qui disait le hasard. Attendez voir. Non, il y avait une jolie petite phrase sur le hasard. Bon, je la retrouverai peut-être plus tard.
Il y a uniquement déjà une phrase à vous sur le hasard. Je ne crois pas au hasard. Je crois aux résonances, aux synchronicités et surtout à l'humour de vie. Un humour de vie qu'on retrouve à chaque ligne de ces deux récits, finalement.
Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a une résonance. Après, je veux dire, bon, on vit sa vie. Et puis quand on jette un regard sur ce qu'on a vécu, on se rend compte qu'il y a quand même un certain fil rouge. Et d'abord, je pense que j'ai toujours été habitée par la beauté de ces paysages, les paysages du Moyen-Orient. Je connaissais les paysages du Maghreb, magnifiques. C'est vrai, il y avait ça, il y avait quelque chose qui... Il y avait des valises. On arrive avec des valises. Qu'est-ce qu'il y a dans nos valises ? On ne sait pas trop. Et je pense qu'il y avait un petit bout d'Arabie déjà dans mes valises. Et après, bon, il y a toute l'histoire personnelle, si vous voulez, le côté initiatique, dont je ne peux pas vous parler ici parce que ce serait trop long. Mais bien sûr, c'était absolument pas un hasard. Hein, ça, je suis convaincue.
Depuis les années 70 à 2011, tout récemment justement, quels sont les changements ou les enlisements que vous avez pu observer en Arabie Saoudite, que ce soit au niveau d'activités commerciales ou au niveau aussi de la vie de tous les jours ou des femmes justement, puisque vous tenez à parler des femmes dans le deuxième récit.
Alors voilà, donc il y a eu un immense changement au niveau bien sûr économique, technologique. Bon, Jeddah par exemple, puisque nous sommes retournés à Jeddah aussi, à Taïf bien sûr, mais Jeddah est devenue une mégapole. Quand nous y étions, il y avait à peu près 600 000 habitants. Là, je suis arrivée dans une ville qui en comptait à peu près 4 millions. Donc c'est tout simplement ahurissant. Et là, ils ont dû énormément s'organiser parce qu'ils reçoivent des millions de pèlerins chaque année pour le Hajj. Donc maintenant, l'aéroport, quand je parlais de l'aéroport au début, ben maintenant c'est devenu un aéroport incroyable qui a une infrastructure absolument inouïe pour recevoir tous ces pèlerins à la fois. Et bon, ça c'est une chose, la ville est devenue gigantesque, il y a beaucoup, beaucoup de verdure, et moi à l'époque je m'extasiais à la vue d'une petite broussaille, hein, parce que c'était ça, vraiment, on rêvait de vert, de verdure, ben, il n'y en avait pas, et là maintenant c'est un immense jardin, c'est magnifique, hein. ils ont vraiment fait des plantations partout, et puis ça pousse, maintenant il y a de l'eau, avant il n'y en avait pas, il y avait les camions d'eau qui arrivaient, et puis on osait à peine... arroser notre jardin. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, ce qui concerne la condition des femmes, ça, c'est très important. Alors, les étrangères, le code vestimentaire, donc les étrangères maintenant, alors là on a l'impression qu'on a reculé, bien sûr, parce que maintenant, les étrangères sont obligées aussi de revêtir le voile et la baya. Elles doivent absolument s'y conformer, ça, c'est une chose. Mais les femmes ont gagné un petit peu plus de liberté. Mais c'est très, très longtemps. Autant le progrès a été gigantesque sur un autre plan, autant sur le plan des mentalités, c'est très long. Il y a des petits changements. Alors, je dirais qu'il y a plus de femmes. D'abord, il y a des femmes qui travaillent maintenant. Avant, il y avait très, très peu. Il y avait quelques femmes dans l'enseignement. Il y avait quelques femmes dans le domaine médical. Maintenant, il y a quand même pas mal de... J'ai interviewé pas mal de femmes dans une entreprise. Il y a quand même un grand progrès. Alors, elles doivent la plupart du temps rester quand même séparées des hommes. Hein. Il y a toujours cette séparation homme-femme, hein. Partout, dans les restaurants, dans les malls, enfin partout. Hein. Donc ça, c'est une chose. Et les femmes, il y en a beaucoup qui se rebellent, qui font des manifestations, qui essayent de conduire. Bon, après, elles se font mettre en prison. Mais on avance à tout petit pas. Le roi est assez progressiste. Mais bon, il y a évidemment les religieux qui freinent énormément.
Vous le dites, à un moment donné, c'est plutôt une question d'évolution des mentalités, même au sein des femmes.
Hein, alors il y a des femmes qui finalement se contentent... on les maintient. Les femmes des villages, on les maintient un peu dans l'ignorance. Hein. Mais les autres, il y en a qui m'ont dit, mais écoutez, on est très très bien comme ça, on n'a pas du tout envie de conduire, on est très contente d'avoir un chauffeur, pendant ce temps on se relaxe, voilà. Mais elles sont quand même assez contentes de travailler, hein, il faut le dire. Et attendez, alors là j'ai... Oui, alors donc, par exemple, au niveau du droit de vote, le roi Abdallah a promis le droit de vote aux femmes pour 2015. Alors on verra si ça se...
L'occasion d'un retour pour un troisième récit. Dominique
peut-être,
Martin.
Qui sait. Mais j'ai l'impression que c'est surtout mon mari qui veut plus retourner en Arabie. Et comme je le disais, sans lui, pas possible. Donc,
Petite question pour vous. Je voulais savoir si vous avez l'impression que le voyageur qui met les pieds pour la première fois en Arabie Saoudite, est-ce que sa soif de curiosité, elle peut effacer ou voiler un temps l'injustice qu'il peut observer? Est-ce qu'il y a un peu ce jeu, comme vous disiez un petit peu au tout début?
Oui, mais je dirais que d'abord, c'est très très. On peut pas y aller en touriste. Ça, c'est pas possible. Hein. On peut y aller seulement si on a un visa de pèlerin et ou si on y va sur un plan professionnel, si on est invité par un sponsor. Alors, c'est vraiment très compliqué d'entrer en Arabie Saoudite. Donc, bon, admettons quelqu'un arrive à débarquer en Arabie. Je sais pas. Je pense que l'hypocrisie, l'injustice, tout c'est quand même très lourd. Hein. C'est quand même le monde des interdits, de la répression. Je pense que c'est la première chose qui vous saisit. Quoique, en fait, tout semble un petit peu aseptisé, voilé. Et je dirais que parfois, on se rend... D'abord, les gens, les touristes qui arriveraient resteraient peut-être un peu dans leur hôtel, parce que on peut pas tellement sortir. Si on connaît pas des gens du pays, on n'a pas tellement l'occasion. Bon, prenez un taxi, vous allez là. C'est difficile même de découvrir le pays, je dirais. Mais ça, je sais pas. Je peux vraiment... C'est difficile de répondre, mais je pense que c'est quand même... Je sais pas, il y a quand même beaucoup de répression, il y a quand même beaucoup d'injustice, d'hypocrisie. Les gens sont mis en prison encore maintenant pour un oui, pour un non. Il y a, y a des, Il y a des choses terribles. Là, j'ai envie de raconter aussi une chose. Il y a dernièrement une jeune fille qui a fait une crise cardiaque. Et en fait, elle n'a pas pu être sauvée parce que son marame, c'est-à-dire son tuteur, n'était pas là. Donc, les ambulanciers n'ont pas pu l'emmener à l'hôpital. Donc, elle est morte. Et en 2002, vous voyez, il y a la révolte qui commence à gronder en moi. En 2002, une quinzaine d'écolières qui sont mortes, brûlées vives, parce qu'elles étaient soi-disant pas habillées comme il le fallait, et on a interdit aux ambulanciers de pénétrer dans l'école, en fait. Donc voilà, quand on sait tout ça, je sais pas, moi j'ai des révoltes rétrospectives assez fortes.
Vous l'avez compris, fascination douloureuse pour Dominique Martin, une fascination que l'on retrouve dans ces deux récits en un ici, donc dans le cadre de cette parution empreinte saoudienne aux éditions de l'Âge d'Homme. Alors, malgré la gravité de la chose, eh bien, on sourit beaucoup de fois et on arrive assez vite à se faire un dessin des univers et à voyager avec vous un peu dans une sorte de géographie un peu sensuelle, on va dire, de ces paysages.
Oui, et puis bon, l'humour, alors vous parliez de l'humour, c'est vrai que l'humour, c'est quelque chose que j'adore, et l'humour m'a permis de tenir le coup, hein. C'était vraiment, parce que finalement, je voyais tout ce qui était insolite, je m'amusais à décrire, il y avait des choses absolument incroyables, il y avait par exemple un transporteur de voitures, qui, en fait, on a vu, mon mari et moi, des voitures volées. Heureusement, on en a pas reçu. On les a vues voler parce qu'elles étaient mal arrimées. Donc, au début, on voyait des choses, mais incroyables. Enfin, ça, c'est une petite chose parmi tant d'autres. Et puis, bon, alors, après, vous parliez de la sensualité. Oui, c'est vrai qu'elle était en éveil constamment. Les parfums, la nourriture. Bon, je suis très gourmande, donc j'ai aussi fait pas mal de descriptions de buffets.
C'est un vrai buffet, hein.
Oui, c'est vrai. Et puis, bon, bah, ces nuits magiques, ces nuits dans le désert, c'est ce désert très sensuel et très, parfois très, très rude aussi. Hein. Il y a les deux aspects, les chevauchées dans le désert. Enfin, il y a eu des choses extraordinaires, c'est vrai. Il y a eu des moments très, très forts aussi, très beaux, très, très cosmiques, je dirais.
Merci, Dominique Darabi.
Merci, Jessica. Non, j'ai fait mes remerciements au début, mais je remercie tout le monde. Vous êtes merveilleux. Merci beaucoup.
Merci à vous. M'excuse, alors ça c'est ma faute, on allait tellement dans ces plaines. Est-ce qu'il y a des questions ouvertes? Vous avez une question, mais vous en prie, posez-la, c'est un peu le moment ou jamais.
Moi, ce que j'ai entendu m'enchante, j'ai très envie de lire le livre, tu as une manière de t'exprimer extraordinaire, ma question numéro qui est importante pour moi, c'est comment tu communiques? Est-ce que tu parles un peu l'arabe? Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as pu rentrer dans la langue arabe? Ce qui est me semble-t-il quelque chose de condition sine qua non, mais pas forcément peut-être.
Non, tu as tout à fait raison. Alors je suis rentrée un peu dans les rudiments, hein. Je réussissais, je me débrouillais, j'ai pas mal oublié de choses. De temps en temps, il y a un mot qui ressurgit comme ça, ou quand je suis en colère, ou il y a quelques jurons qui ressortent comme ça. Donc là, je me débrouillais, hein, parce qu'il fallait quand même, je prenais le taxi, je devais me débrouiller. Alors forcément, au niveau du quotidien, oui. Et c'est vrai que j'ai fait une tentative, je dis bien une tentative, d'étudier l'arabe littéraire. Et c'est vrai que j'ai vite renoncé, je reconnais. Mais j'ai pas perdu espoir. J'ai pensé éventuellement prendre des cours à Genève. Je sais pas pourquoi, parce que question de résonance, parce que je suis toujours un peu habitée par ces pays. Peut-être qu'une fois j'apprendrai l'arabe. Qui sait?
D'autres questions? Madame.
Est-ce que quand tu es retournée en 2011, parce que tu es partie blessée, est-ce qu'en retournant, tu as pu cicatriser?
Ah oui, absolument, tout à fait. Oui, je disais justement que au retour, bon, d'abord, il y a eu cet accueil merveilleux, comme si, je ne sais pas, c'était un retournement de situation. Et ses amis nous ont accueillis, j'avais l'impression d'être enveloppée dans un manteau doré. Enfin, c'était quelque chose, je planais vraiment, hein. Et puis, effectivement, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, ben, j'ai pas plus d'explications par rapport à notre départ précipité. Mais il y a eu effectivement, oui, ça a, la plaie a été, si je puis m'exprimer ainsi, complètement cautérisée. Et ça, c'est magnifique, je veux dire, vraiment. J'en suis libérée, parce que c'était une entrave, quelque part.
Allez-y. Pardon. Merci pour votre récit, déjà. J'aurais aimé savoir comment ça se passait quand vous étiez... Pardon, vous avez parlé de ce mariage où vous vous êtes retrouvée avec 2000 femmes. Qu'est-ce que vous avez pu lier avec ces femmes? Comment vous avez pu... Bon, vous parliez quasiment pas arabe, mais comment ça s'est passé? Ça m'intéresse beaucoup.
Alors écoutez, d'abord j'ai eu la chance effectivement d'être invitée à ce mariage, mais j'étais quasiment la seule occidentale. Donc je me suis retrouvée dans une soirée avec des femmes dans des tenues absolument magnifiques, donc je décris tout ça. Et puis en fait, toute la soirée s'est passée à attendre la mariée. Elle se fait attendre à peu près jusqu'à 4-5 heures du matin. Et c'est ça un peu les Séoudiennes. En fait, c'est des gens qui ont une forme d'hospitalité qui est tout à fait presque contraire à la nôtre. C'est qu'en fait, c'est nous qui les attendons quand on est invité chez eux. Ils font leur entrée. Il y a un côté un peu théâtral. Donc toute cette soirée s'est passée comme ça. Il y avait bien sûr des chants, il y avait des danses, il y avait... Puis je disais, ah, c'est la mariée qui arrive. Puis on me disait, non, parce que j'ai rencontré une Égyptienne et c'est avec elle que j'ai pu passer la soirée. Elle m'expliquait un petit peu ce qui se passait. Et on disait, non, c'est la belle-sœur qui s'est mariée la semaine dernière qui vient encourager voilà, la future mariée. Ah, d'accord. Puis après, tout d'un coup, on voyait ressurgir, comme ça, d'une allée, on voyait ressurgir un petit cortège et on disait, ah, mais voilà la mariée. Non, c'était toujours pas la mariée. Et finalement, elle est arrivée avec son mari. Hein, c'était lui est venu. Et elle avait, alors j'étais très 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 déçue parce qu'elle avait une robe de mariée à l'occidentale. Alors là, les mille et une nuits se sont effondrées. Par contre, il y a quelque chose qui était extraordinaire. C'était, bon, d'abord, il y avait des tapis partout. C'était un immense parc. Il y avait des choses très belles à voir. Et le buffet était quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, je le décris. C'était quelque chose d'exceptionnel. Donc je dirais c'était, il y avait en même temps, oui, il y avait des chants, oui, il y avait des danses, mais j'étais un petit peu déçue quand même. J'ai trouvé que c'était un peu conventionnel. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus mille et une nuits. Voilà, un peu plus proche des mille et une nuits.
Dominique, oui, est-ce que tu as eu l'occasion de parler de politique avec des femmes sur place?
Non, pas du tout. Non, c'était vraiment le sujet à éviter. Je crois que ni elle ni moi n'avait envie d'entrer en matière. Non, c'est, et puis je veux dire, non, il y a des sujets qu'il ne faut peut-être pas trop aborder. La politique, la religion, non, je n'ai pas touché. Oui, ça ne m'a pas empêché de penser, mais je n'en ai pas parlé. Non, parce que, vous savez, à la moindre des paroles, on pouvait être renvoyé, expulsé, mis en prison. Non, mais j'exagère peut-être un peu, mais pas trop quand même. À l'époque, c'était comme ça. Vous disiez, bon, nous, on était très protégés parce que, bon, on était très protégés par le ministre, mais autrement, il fallait faire quand même très, très attention. On était très surveillés. Donc, voilà, non, pour répondre à ta question, non.
Dominique, je voudrais te poser une question.
Oui, oui.
Depuis de très nombreuses années, on a beaucoup des Arabes, particulièrement en Arabie Saoudite, qui viennent à Genève.
Oui.
Pour les fêtes de Genève, enfin, etc.
Absolument.
Est-ce que tu as renoué des contacts, tu as vu des gens de là-bas qui sont venus chez nous ici et que tu as pu recevoir?
Alors, c'est-à-dire que il y a des amis avec qui je suis restée en contact. Oui, je n'ai pas fait des nouvelles connaissances, hein, mais oui, je suis restée en contact avec des amis. Pas beaucoup, mais oui, quand même.
C'était peut-être la première fois qu'ils venaient. Comment est-ce qu'ils trouvaient la vie occidentale?
Ah, c'était pas tellement la première fois qu'ils venaient, parce qu'il y a quand même pas mal de gens, les gens fortunés, les gens haut placés, ils voyageaient beaucoup, les femmes aussi, les filles étudiaient à l'étranger. Ce qui était très difficile, c'était après quand elles devaient réintégrer leurs conditions de femmes saoudiennes. Ça, c'était, donc elles allaient étudier à l'étranger, ça on n'a pas eu l'occasion de parler, parce qu'on ne peut pas parler de tout, effectivement.
Il faut lire le livre.
Voilà. Donc, en fait, je dirais que c'était des gens qui étaient quand même habitués à aller effectivement en Angleterre, à Paris, enfin à Londres, à Paris, qui bougeaient déjà beaucoup. Oui, tout à fait, je t'en prie.
Le silence s'est fait, car il y a impatience de rejoindre Dominique Martin à l'étage pour la signature.
Avec plaisir. J'ai le poignet ferme.
Merci.